Début janvier 2010, je reçus un appel de l'hôpital Cochin. Nous avons une patiente, Petroni Fanto, qui assure que vous êtes disposée à l'héberger quelque temps. Qu'est-ce qu'elle a? C'est mystérieux, elle a développé une allergie à... beaucoup de choses, et elle ne peut pas rester seule en ce moment. Une grande traumatisée arriva chez moi. « Tu as encore trouvé le moyen de te faire conduire en ambulance ?» dis-je. « C'est pas drôle. »« D'accord. Tu ne testeras plus de médicaments ?»« Plus jamais. » Elle ne voulut pas me raconter. Cela semblait avoir atteint des proportions impensables. Notre cohabitation dura près de 3 mois. Elle s'avéra difficile. Petroni ne supportait ni la poussière, ni la couleur orange, ni l'odeur du fromage, ni mes fleurs séchées, ni ma musique. C'est atroce, tes hymnes gothiques, ni mon mode de vie. Je te croyais belge, mais t'es allemande. Je n'ai pas su ce que cela voulait dire. Pour ma part, je la trouvais changée. L'intolérance à ce médicament inconnu l'avait profondément choquée. Elle était devenue hypochondriaque, ultra sensible au bruit et à des choses très curieuses comme les M&M's, mon tableau de tournesol sous la neige, mon déodorant, le chandelier de la cuisine. On n'a pas idée, un chandelier dans une cuisine. Enfin, elle s'entendait mal avec mes cactus. Même boire du champagne avec elle n'était plus aussi agréable qu'avant. Je la sentais tendue en permanence, d'une susceptibilité hors norme. Nous nous disputions souvent pour des motifs incompréhensibles. Un jour, j'eus le malheur de maudire la pilule qui l'avait altérée. Cela mit le feu aux poudres. Petroni partit avec ses affaires. Je sus qu'il ne fallait plus aborder ce sujet. Rien de nouveau sous le soleil. Ce n'est pas parce qu'on adore quelqu'un que la cohabitation fonctionne. Comme d'habitude, Petroni se tut pendant des semaines. Notre lien avait connu tant de ses silences. Pendant celui-là, je pensais à elle avec une fierté guerrière. Petroni était ce glorieux soldat qui n'avait pas cherché à se protéger et qui, revenu amoché et victorieux du précédent combat, remontait au front de la littérature. En cette époque de mijaurée où l'on abuse du mot « violence », la jeune romancière avait exposé son corps à un risque réel pour pouvoir continuer d'écrire. Elle avait illustré d'une manière singulière le livre de Léris, de la littérature considérée comme une tauromachie, associant l'acte d'écrire à un péril vrai, l'adoubant ainsi d'inactuels lauriers. Quand Petroni était fâchée, je lui laissais l'initiative. Elle me recontacta quelques mois plus tard pour m'annoncer qu'elle allait publier un roman chez Flammarion et qu'elle était désormais critique littéraire dans un important hebdomadaire luxembourgeois. Ce dernier point me stupéfia. « Quel rapport entre le Luxembourg et toi? Tu as un compte secret ?»«
Tu sais bien que j'ai pas d'argent. »
C'était exact. Je ne connaissais personne d'aussi fauché. Un jour que je la vis avec des chaussettes trouées, je lui suggérai d'en acheter de nouvelles. Elle répondit qu'il suffisait de superposer plusieurs paires. « Les chaussettes ne se trouvent jamais au même endroit », philosopha-t-elle. « Mais comment as-tu trouvé une place aussi prestigieuse ?» insistai-je.
« Ce serait trop compliqué à t'expliquer. »
La vie de Petroni regorgeait de tels mystères. Cette aventurière de l'écriture ne manquait pas d'entre gens. Sa chronique littéraire fut rapidement lue par nombre de Français, épatés par l'indépendance de ses opinions et l'élégance de sa plume. Elle devint une instance estimée. Le danger d'un tel statut est le ronronnement. Combien aurait profité de cette situation pour jouer au notable des lettres? La distribution des ombres lui valut un prestigieux prix littéraire, comme son roman précédent, ce dont n'importe quel autre écrivain se fût vanté ad nauseam. Petroni n'eut pas l'air de s'en apercevoir. Ce fut l'année suivante, je crois, que cela commença. Il est difficile de raconter un phénomène dont on ignore à peu près tout. Il semblerait que Petroni fût tombée amoureuse, mais je n'en suis pas sûre. De qui? Je le sais encore moins. Et avec quel succès? Je l'ignore. Comme elle était redevenue ma compagne de beuverie, je la cuisinais quand elle était aussi ivre que moi, en vain. Le champagne la rendait diserte sur bien des sujets, sauf celui-là. Au demeurant, cela ne l'empêcha pas d'écrire. L'amour n'a pas la réputation de tarir l'inspiration. En 2012, elle publia le plus beau roman apocalyptique que je connaisse, les immédiates. Puis, on put lire d'elle une fiction fantastique sur le tatouage, le sang de chagrin. Même si cela ne sautait pas aux yeux, chacun de ses livres était à sa manière une histoire d'amour. Petrone y voyagea. Elle partit à Budapest. Elle disparut à New York. Elle disait qu'elle voulait, comme Frédéric Moreau dans l'éducation sentimentale, connaître la mélancolie des paquebots. « Tu es allé à New York en paquebot ? » m'étonnais-je. « Ce qui compte est d'en avoir l'impression, » répondit-elle énigmatiquement. Début 2014, j'eus vent d'une affaire à ce point énorme que je ne la voulus pas croire. On me rapporta que Petroni se livrait, plusieurs soirs par semaine, dans les milieux dits de la nuit, à un numéro de roulette russe. J'en ris tout mon saoul et je songeais à téléphoner à l'intéressé, histoire de lui raconter ce qui circulait sur son compte. « On ne prête qu'aux riches », lui aurais-je dit, quand elle m'appela. « Je pourrais pas venir jeudi soir. »«
Quel jeudi soir ? Le prochain ?
Le 20 mars. »«
Mais c'est ton anniversaire. »«
J'ai du travail. »
« Tu as du travail le soir de ton anniversaire ?»«
C'est comme ça. »«
Tu m'avais réservé ta soirée. »«
N'insiste pas. » Elle raccrocha. Je l'eus mauvaise. Je voulus me persuader qu'il s'agissait de l'un de ces étranges rencarts amoureux.
« Mais alors, pourquoi avait-elle cette voix sinistre ?» me demandai-je.
La rumeur dont j'avais eu vent propageait que Petroni exerçait son numéro de roulette russe dans une cave de la rue Saint-Sabin. Comme ma soirée du 20 mars était désormais libérée, rien ne m'empêchait de la passer dans la cave en question. Au jour dit, j'arrivais sur les lieux vers 19h, vêtue en cantinière du Saint Graal, ce qui ne me distinguait pas des autres clients.
« Pauvre Petro, faut-il que tu manques d'argent pour accepter de travailler en un bouge si enfumé ?» pensais-je.
Dans un sac à dos étanche rempli de glaçons, j'avais emporté une bouteille de champagne, un Joseph Perrier blanc de blanc millésime 2002, avec une flûte en chaque poche latérale. J'avais été bien inspirée, car à la carte des caves Saint-Sabin, gothisme oblige, ne figuraient que bière et hypocrase. Aucune affiche ne signalait de numéro de roulette russe, soit pour ne pas avoir d'ennui en cas de descente de police, soit parce que cette histoire n'était que du pipeau, me dis-je. Les voûtes de l'établissement devaient remonter aux catacombes. L'éclairage aurait convenu à un enterrement clandestin, les clients et les serveurs arboraient des vanités à chaque doigt. Tout ici présageait la mort. L'angoisse s'installait en moi de plus en plus profondément. Retentit alors une belle chanson que mon cerveau mit un certain temps à identifier. « Roulette » de System of a Down. Les gens réagirent à ce signal en se taisant. Comme il n'y avait ni scène ni estrade, ce fut devant le bar que je vis arriver Petronille, qui pour la première fois me parut grande, peut-être parce qu'elle était la seule à se tenir debout. Elle sortit un revolver de la poche de son jean et commença son laïus à haute et intelligible voix. « Mesdames et messieurs, la roulette russe est un jeu qui ne se démode pas. » Déjà, je n'écoutais plus. Foutre ciel, c'était donc vrai. La peur pure et simple ne tarda pas à succéder à la panique, de sorte que je me raidis jusqu'à la pétrification. À l'intention de ceux qui auraient ignoré les règles, Petronille ouvrit l'arme, montra le barillet vide, y plaça une balle unique, referma et fit tourner ce qui valait à cette pétoire le nom de revolver. Elle conclut son baratin par « Y a-t-il un volontaire dans la salle ?» Le public éclata de rire. « Pas moi. » On peut compter que sur soi. C'est toujours comme ça. La chanson de système était terminée. Je vais à présent vous demander le silence. Elle n'eut aucun mal à l'obtenir. On entendit tourner le barillet, ou du moins on crut l'entendre, tant on avait d'attention pour ce qui se déroulait. Petroni y posa le canon sur sa tempe et parla. Dostoïevski, qui avait été condamné à mort et ne savait pas qu'il serait gracié à la dernière seconde, raconte son expérience du peloton d'exécution. Les instants qui s'allongent jusqu'au vertige, la beauté insensée des moindres choses, les yeux qui s'ouvrent enfin à ce qu'il faut voir. De là où je suis, je peux vous l'affirmer. Il avait raison. Elle appuya sur la gâchette. Il ne se passa rien. J'allais tomber à genoux pour remercier la Providence quand la jeune femme reprit. « Dans les westerns, on appelle cet objet un six-coups.
Je tirai donc 6 fois. Plus que 5. » Comme elle recommençait l'opération, un très lointain souvenir m'effleura. Il s'agissait d'une vidéo qui avait circulé une dizaine d'années auparavant. La roulette russe sans peine, ou quelque chose de cet acabit, dans laquelle un spécialiste enseignait le geste décisif, celui qui fait tourner le barillet de manière à choisir l'emplacement de la balle. Se pouvait-il que Petroni ait appris cette technique ? Je l'espérais. Elle appuya sur la gâchette. Rien. « Plus que 4 », déclara-t-elle. J'observais le mouvement qu'elle exerçait sur le barillet. Il était parfait en ceci qu'on ne décelait aucun calcul. Je n'aurai pas la clé du mystère. « Le canon trouve tout seul le chemin de la tempe, maintenant, » dit-elle. Elle appuya sur la gâchette. Rien. « Plus que 3 ». Même si elle avait eu accès à cette vidéo, la prise de risque de Petroni n'en était pas moins gigantesque. Un prestidigitateur averti aurait pu commettre une erreur, à plus forte raison cette aventurière. Elle appuya sur la gâchette. Rien. Plus que 2. Il n'y avait que Petroni à avoir conservé son sang-froid. La salle entière était en transe, et moi la première. Ce que nous éprouvions et exprimions par un silence accru, c'était un genre d'au-delà de la peur. Un paroxysme étal. Le temps n'avançait plus. Chaque seconde devenait sécable à l'infini. Nous étions tous Dostoïevski devant le peloton. C'était sur notre tempe que nous sentions la bouche du canon. Elle appuya sur la gâchette. Rien. Plus qu'un. Un éclair de compréhension me parcourut de la tête aux pieds. Ce qui d'emblée m'avait rendu si proche de Petroni, c'était cette sensation très précise, cette ivresse que, faute de mieux, on appelle goût du risque, qui ne correspond à aucune pulsion biologique ni à aucune analyse rationnelle, et que j'avais illustré de manière moins spectaculaire mais non moins définitive en des circonstances peu racontables. Nous n'étions certes pas majoritaires en cet âge d'or du principe de précaution, et nous nous comprenions d'autant mieux. Comment avais-je pu croire qu'elle exécutait ce numéro pour l'argent ? Et comment avait-elle pu affirmer qu'elle avait testé des médicaments dans un but lucratif ? Si Petroni s'était mise et se mettait à nouveau à ce point en danger, c'était pour connaître cette exaltation suprême, cette dilatation extatique du sentiment d'exister. Elle appuya sur la gâchette. Rien. Comme la salle hurlait déjà, la jeune femme nous intima de nous taire et reprit. « Ne croyez surtout pas que je me moquais de vous. » Et sans faire tourner le barillet, elle visa une bouteille au sommet du comptoir et tira. Le coup retentit si fort que l'on entendit à peine le verre se briser. Il y eut un tonnerre d'applaudissements. Resplendissante, Petroni rejoignit la table où j'étais installée seule et s'assit à côté de moi. « Bravo ! C'était magnifique » exultai-je. « Tu trouves ? » dit-elle avec une feinte modestie. « Et quelle manière originale de fêter tes 39 ans ! Est-ce une allusion aux 39 marches de Hitchcock ?»« Assez causé. Qu'est-ce qu'on boit ?»« J'ai ce qu'il faut !» répondis-je en dégainant la bouteille de champagne. Je remplis les flûtes et portai un toast à sa gloire. La première gorgée me subjuga. Rien ne rehausse ce breuvage comme la roulette russe. « T'as failli boire sans moi, » dit Petroni. « Tu m'as donné l'occasion d'appliquer l'une des devises de Napoléon, qui mettait toujours une bouteille de champagne au frais pour après la bataille. En cas de victoire, je la mérite, mais en cas de défaite, j'en ai besoin, » disait-il. « Et quel est ton verdict ?»«
Tu la mérites. Bon anniversaire. »
Comme d'habitude, j'avais parlé trop vite. Tard dans la nuit, un différend nous opposa au sujet de Dieu sait quoi, dont l'alcool exagéra l'importance. Nous remontions alors le boulevard Richard Lenoir, et Petroni, à qui le caractère ne manqua jamais, glissa une balle dans le barillet qu'elle fit tourner à sa convenance. Elle posa le canon sur ma tempe et tira.
« Cette fois, ce n'est pas Marlowe qui trépasse dans une rixe de rue, » dit-elle à mon cadavre.
Elle fouilla dans ma besace, trouva ce manuscrit qu'elle empocha et jeta mon corps dans le canal Saint-Martin. Le lendemain était un vendredi, jour ouvrable. Par acquis de conscience, Petroni apporta le manuscrit à mon éditeur.
Il n'est pas bien long, lui dit-elle. Je reste dans les parages. Vous le lisez et puis on en parle.
Pendant ce temps, elle s'installa dans mon bureau où, avec le sans-gêne qu'on lui connaît, elle eut une conversation téléphonique de 2h30 avec Tombouctou. Après quoi, l'éditeur vint lui demander si ce n'était pas plutôt à la police qu'il fallait apporter mon manuscrit.
« Je vous laisse, juge, » répondit-elle.
Pétronille fila comme un chat et disparut sur les toits de Paris, où, à mon avis, elle rôde encore aujourd'hui. Quant à moi, au fond du canal, en bon macabé, je médite et tire de cette affaire des leçons qui ne me serviront pas. J'ai beau savoir qu'écrire est dangereux et qu'on y risque sa vie, je m'y laisse toujours prendre.